France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Non, mes amis, nous n'affrontons pas une bête, mais des légions qui ne cessent de s'enfrer siècle après siècle, suçant jusqu'à la mort le sang des vivants.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Mon devoir me contraint à mettre en garde ce matin les âmes sensibles qui nous écoutent, et je sais combien elles sont nombreuses parmi notre public, car nous allons parler des vampires. Dans notre actualité culturelle, ils surgissent de partout, et je ne parle pas au sens figuré, au moins pour l'instant. Ils surgissent de partout, sur nos multiples écrans, au cinéma, à la télévision, et aussi sur Internet, et pourquoi pas sur nos téléphones. La mode est aux vampires. Claude Lecouteux, professeur émérite de littérature et de civilisation à la Sorbonne, Paris 4, mon invité ce matin, qui est un spécialiste de ces impressionnantes créatures, a dénombré des centaines de sites qui leur sont consacrés sur la toile. On peut s'attacher bien sûr aux vampires entre frissons et ironie, comme à des personnages nés d'imagination débridée, avec leurs peaux blêmes, leurs canines démesurées, leurs ongles crochus, leurs mains glacées et leurs poils impitoyables, avec leur capacité de se métamorphoser en mouche, en rat ou encore en chauve-souris, et leur violence irrésistible de suceur de sang. Mais on peut aussi, et on doit, puisque nous sommes très rationnels ici, n'est-ce pas ? On doit considérer ce que la prospérité irrépressible de ce mythe peut révéler quant aux fantasmes, aux angoisses et aux fascinations des sociétés successives, au moins depuis le XVIIIe siècle. Réfléchir à ce qu'ils ont à nous dire sous le regard des médecins, des psychiatres, des théologiens et des anthropologues, toutes gens qui s'efforcent tant bien que mal de parvenir à une sérénité distanciée en face de ces mystères sanglants. Et pour commencer, un extrait de La Morte amoureuse, Théophile Gautier, 1836.
Rien qu'une goutte, une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille. Puisque tu veux bien m'aimer encore, il ne faut pas que je meure. Laisse-moi découvrir ce bras plein de vigueur. Je vais boire le beau sang éclatant de mon amour. Dors, mon seul bien. Dors, mon Dieu. Je ne te ferai aucun mal. Je ne te prendrai de ta vie que ce qu'il faut pour conserver la mienne. Je ne puis me résoudre à tarir les veines d'autres amants. Je ne puis toucher d'autres hommes que toi. Oh. Oh, le beau bras. Comme il est rond. Comme ses muscles sont riches. Il se dessine sous la peau satinée comme autant de bêtes merveilleuses au repos, prêtes à bondir à la moindre alerte. Dors, mon ange. Voici la veine bleue où mon élixir coule en abondance. Jamais la lancette de l'apothicaire n'a commis mon geste sacrilège. Mais il le faut, mon cœur. Il le faut. Oh, ne t'éveille point. Mon petit enfant, je ne te ferai aucun mal.
Elle pleurait en me parlant, et je sentais ses larmes tomber sur mon bras nu. Enfin, elle se décida, me fit une petite piqûre avec son aiguille, et but le sang qui coulait.
Claude Lecouteux, bonjour.
Bonjour.
C'était Michel Bouquet et Sylvia Montfort, je gâche que nos auditeurs les ont reconnus, qui interprétait des extraits de La Morte amoureuse de Théophile Gautier, je le disais. C'est une réalisation d'Albert Riera pour la Soirée de Paris en juillet 1957. C'est vous, Claude Lecouteux, qui avez souhaité que nous commencions notre conversation à partir de ce texte parce que vous l'aimez beaucoup.
Oui, je trouve que dans La Morte amoureuse, Théophile Gautier a fait une œuvre très originale et qui se démarque vraiment des histoires classiques de vampires. Parce que comme vous l'avez vu, ou plutôt entendu dans cet extrait, Clarmonde ne veut pas tuer finalement celui qu'elle aime. Et elle va le maintenir en vie en ne prélevant à chaque fois qu'une goutte de sang, ce qui lui permet à elle-même de rester en vie et donc de vivre son amour. Et Gautier a fait de ce personnage quelqu'un de très attachant et de très humain, bien éloigné de la grande brute qui suce le sang et qui terrasse finalement tous les humains vivants.
Décidément, vous les aimez, les vampires, parce que vous souhaitez qu'on ne les réduise pas à la caricature d'une grande brute.
Mais il y a deux choses à voir. Il y a la réalité des croyances d'autrefois et puis la littérature. En littérature, vous avez d'excellents textes comme celui de Théophile Gautier. Et à côté de cela, vous avez des textes qui relèvent du Grand Guignol.
C'est d'ailleurs à la rencontre entre littérature et croyances populaires que nous allons situer, si vous le voulez bien, cette émission. Du côté de la littérature, vous citez La fiancée de Corinthe de Goethe, 1797. « Une force me chasse hors du tombeau pour chercher encore les biens dont je suis sevré, pour aimer encore l'époux déjà perdu et pour aspirer le sang de son cœur. » C'est pas tellement différent de Théophile Gautier et de Clarimonde.
Non, mais c'est toute une veine qui fait du vampire un personnage féminin. Bon, du vampire personnage féminin à la vampe, il n'y a qu'un pas qui a été peu à peu franchi, hein, notamment à l'époque moderne.
Nous avons l'occasion d'en reparler entre Dracula et la vampe. Mais je voudrais d'abord, si vous voulez bien, que vous nous rappeliez ce qu'a été la floraison des vampires au cinéma, depuis l'ultra-célèbre Nosferatu de Frédéric Murnau en 1922 en Allemagne.
En fait, la vie du vampire au cinéma commence en 1913.
Ah non, j'aurais dû remonter plus loin.
Voilà, avec le premier film de vampire qui est dû, si je ne me trompe pas, à Robert Vignola. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une production étonnante de films de vampires de façon quasiment cyclique, avec abondance par période et avec quelques perles rares, dont le Nosferatu de Murnau, bien sûr. Et puis ensuite, on a quelques inclusions philosophiques, je dirais, avec des questions qui sont soulevées, où le vampire n'est plus un personnage terrifiant, mais un personnage qu'il faut plaindre. Car en fait, il regrette de ne pouvoir mourir. Hein. La vie, c'est quelque chose qui devient insupportable quand elle n'est plus la vie et qu'elle n'est pas encore la mort.
Et le vampire de Dreyer, le Danois Dreyer, l'auteur aussi d'un célèbre Jeanne d'Arc, est une autre étape importante, 1932.
Oui, mais...
C'est la femme vampire.
En fait, chaque film de vampire va refléter peu ou prou les grandes tendances de son époque. Que ce soit au niveau mental, au niveau religieux, au niveau économique, si vous voulez. Quand vous avez des périodes de crise, vous avez des vampires. Et en quelque sorte, c'est un espèce d'exutoire, si vous voulez. Bon, ça fait rêver, ça fait peur, mais finalement, ça fait pas si peur que ça, parce que c'est le frisson confortable au coin du feu ou de la télévision.
Hein. Ou d'un micro.
Ou d'un micro.
Oui, oui, il y a une sorte de... Il y a des avatars, au sens propre du terme, du vampire, qui suivent l'évolution cinématographique du personnage. Murnau, c'est au moment de la terrible... première dépression allemande avec l'inflation qui est dramatique et au moment où l'Europe sort on peut le rappeler ces temps-ci, d'une grippe espagnole qui a fait des millions de morts. Et après la crise de 1929, alors on retrouve le Dracula de Browning avec le fameux Bela Lugosi, quatre fois comte transylvanien, nous verrons de plus près le Dracula. Et puis ensuite on trouve des personnages qui représentent la peur de l'immigrant, c'est clair chez Dreyer, je crois. Et oui. Ensuite, la montée, évidemment, d'Hitler, etc., etc.
L'intérêt du vampire, notamment au cinéma, voire aussi dans la littérature, c'est qu'on peut projeter sur lui tous les fantasmes possibles. Hein, si, il suffit de regarder l'utilisation du mot vampire dans notre société contemporaine, disons, quand je dis contemporaine, depuis 1945 ou 1950, pour s'apercevoir que finalement, le vampire, c'est aussi bien un banquier, hein, puisqu'on est en pleine crise, hein, on peut le dire. Hein, c'est le banquier, c'est le suceur de sang. Il ne suce pas le sang, il vous pompe votre argent. Mais le vampire, de toute façon, c'est celui qui va gêner, qui va vous causer du tort et qui va finalement affecter votre flux vital.
D'ailleurs, Marx déjà emploie l'expression de suceur de sang à propos des capitalistes.
Oui.
Et si vous considérez notre présent immédiat, vous diriez donc que le vampire sert à, comme métaphore de telle ou telle oppression que nous imposent les banquiers, c'est ça votre idée ?
Ça a servi, en tout cas, hein, à l'époque de Marx, c'est sûr, mais on peut remonter plus loin. On peut remonter jusqu'à l'époque de Louis XIV, où là, on n'utilisait pas le mot vampire, mais on utilisait le mot sangsu, carrément. Donc, de sangsu, en fait, on est passé à vampire, mais avec la même acception.
En effet, c'est du 18e que date vraiment l'apparition de vampire, mais vous avez raison de vouloir chercher plus loin encore en arrière, c'est le thème du revenant. Et tiens, je vous ai préparé une chanson que vous connaissez, que je sais que vous aimez, qui est « Les deux ménétriers ». C'est une chanson de Jean Richepin, c'est un poème de Jean Richepin, qui remonte donc au tournant du 19e et du 20e siècle, qui est interprété par Édith Piaf à la fin des années 1930.
Noir, je vaux sans mort, sans salé, sans détruyer, par leur royaume des morts, contre flammes ménétriers. Ils vont un galop d'enfer, tout en raclant leur crin-crin, avec des arches de fer, ayant des chevaux pour bras. Au fracas des durs sabots, au rire des violons, les morts sortent des tombeaux, dansons des cabriolons. Les trépassés joyeux suivent par bons essoufflants, avec une flamme aux yeux, rouge dans leur crâne blanc. Et les blancs ménétriers, sur leurs noirs chevaux sans mort, font halte. Et voici comment parlent les ménétriers. Le premier dit d'une voix, sonnant comme un tympanon, voulez-vous vivre deux fois, venez la vie mon nom. Et tous ceux, même les plus gueux, qui de rien n'avaient joui, tous, dans un élan fougueux, les morts ont répondu oui. Alors l'autre d'une voix, qui soupirait comme un corps, leur dit pour vivre deux fois, il vous faut aimer encore. Aimez donc, enlacez-vous, venez, l'amour est mon nom. Mais tous, même les plus faux, les morts ont répondu non. Et de leurs doigts décharnés, montrant leur cœur en lambeau, avec des cris de damnés, rentrer dans leur tombeau. Et les blancs ménétriers sur leurs noirs chevaux sans mort, sans sceller, sans détruyer, ont laissé dormir les morts.
Claude Lecouteux, décidément, les revenants sont bien antérieurs au XVIIIe siècle. Ils ont légué d'ailleurs un certain nombre de leurs caractéristiques aux vampires.
Il y a toujours eu des revenants, en fait. Ou plutôt, on a toujours cru que les morts pouvaient revenir. Et ça, pour une raison simple, et qui transparaît dans la chanson que nous venons d'entendre, dans la notion de sommeil. En fait, la mort est assimilée à une sorte de sommeil d'où on peut sortir et se réveiller. Et là, évidemment, le pont est facile à jeter entre ces revenants et les vampires.
On peut même évoquer, puisqu'on est là à la fin des années 30, cette interprétation, le fameux « Debout les morts » de Jacques Péricard après 1914-18.
Oui. Oui.
C'est un peu la même thématique.
Oui, et alors, puisque vous citez Jacques Péricard, on peut dire aussi qu'il existe en Allemagne une très belle légende où Napoléon revient la nuit et passe ses troupes en revue alors que tout le monde est mort. Ah, bien sûr, c'est toujours la même chose. Le mort n'est jamais mort dans les mentalités anciennes. Donc on peut toujours le faire revenir, ou simplement il peut revenir de lui-même pour régler un certain nombre de problèmes, de conflits, se venger ou se nourrir. Parce que les morts ont faim, les morts ont soif. Et c'est pas une nouveauté. Déjà au Moyen-Âge et même avant, c'est courant.
Vous avez trouvé un défunt sangsu dès le XIIe siècle.
Oui, oui, oui. Mais il était, quand on ouvre la tombe et qu'on le sort le cadavre, il est gonflé de sang. Et donc la réaction immédiate des deux jeunes gens qui vont le tronçonner, hein, littéralement, c'est de dire, mais il a été la sangsue de beaucoup de gens. C'est normal, c'est l'interprétation. Si vous voulez, une des clés du vampire ou de l'identification du vampire, c'est il est rouge, il est gonflé, il a du sang vermeil qui va couler quand on va, par exemple, lui trancher la tête ou enfoncer un pieu dans sa poitrine.
Ça ne les empêche pas d'être affamés, de dévorer les vivants.
Il
faut surtout éviter, quand il frappe à la porte, de leur ouvrir. C'est bien intérieur au vampire, ça.
Oui, toujours pareil. Pourquoi ? Si vous voulez, il y a une chose que, en fait, le grand public ne sait pas, c'est que le vampire n'est qu'un avatar du revenant.
Il va le savoir à partir d'aujourd'hui.
Ben, j'espère. Parce que le vampire, c'est simplement un revenant qui s'est en quelque sorte spécialisé sur un type unique de nourriture à l'époque moderne, grâce à des gens comme Polidori, Sheridan Le Fanu et compagnie.
Nous allons les célébrer, ces auteurs-là.
Voilà. Eh bien, c'est devenu un suceur de sang. Ah ben, mais c'est faux, ça, c'est quelque chose de moderne, c'est une création du mythe moderne. Avant, ils mangent de la terre, ils mangent des bestiaux, ils mangent du lait.
Et leur linceul, déjà.
Et le linceul.
Ah ben, et leur suaire.
Et il se mange lui-même quand il n'a plus de linceul.
Il se mange lui-même, ça c'est comme le catoblépas chez Raflaubert.
À peu près.
Il mangeait ses pattes. Et cette seule mastication entraîne d'ailleurs des décès à distance.
Oui, alors, la mastication des morts dans les tombeaux, c'est le titre, en fait, d'ouvrages qui apparaissent dès le XVIIe siècle.
On s'interroge. En latin.
En latin, évidemment, parce que les savants et les médecins, surtout, parlent et écrivent en latin.
Vous avez traduit, d'ailleurs, du latin dans une anthologie que vous venez de faire paraître et que je signalerai en bibliographie, et qui s'appelle précisément
« Elles
dévorent leur linceul », oui. Et puis aussi le fameux tableau de Fuseli, lui qui était derrière,
oui.
Qui est de 1782, qui s'appelle le cauchemar, parce que ces étranges créatures rendent visite aux dormeurs et les étouffent et les étranglent.
Oui, bon, les revenants sont coutumiers du fait d'étouffer facilement et étranglent facilement, je veux dire. On a tendance à voir dans des morts des personnages passifs ou transparents, évanescents, des hologrammes en quelque sorte. Mais pas du tout. Le revenant, vous pouvez être un revenant. Hein, vous êtes tridimensionnel, vous agissez. Moi, je connais des revenants. Un mari jaloux, il est mort, mais il a interdit à sa femme de se remarier. Elle se remarie, il prend un mortier, et le jour des noces, il lui fracasse le crâne.
Vous connaissez ça, vous ?
Ben, bien sûr. Et puis alors, j'en ai beaucoup comme ça en magasin.
Eh bien, j'espère que vous en donnerez plusieurs. Enfin, peut-être moins tragique. Alors, il faut que nous voyons comment surgit... En fait, au XVIIIe siècle, le vampire en tant que tel, à partir de cette préhistoire que vous venez d'évoquer, je voudrais que nous attardions un instant sur cette affaire très étrange de Medvegia, je pense qu'on prononce comme ça, en 1732, dans l'Empire autrichien. On est en Serbie.
Oui, et c'est, si vous voulez, c'est un des points de départ, en fait, de toute cette épidémie de vampires qui a commencé à sévir au XVIIIe siècle.
Si vous dites sévir et épidémie, vous le prenez en mauvaise part, et dans votre cas, cela m'étonne.
C'est une critique, en quelque sorte. C'est une critique devant la naïveté de beaucoup de savants qui ont contribué largement, et même les encyclopédistes, à répandre cette notion de vampire. Alors qu'en fait, bon, le vampire, chacun sait que c'est une impossibilité physique, matérielle, etc. Mais non, pour ces gens, le vampire était une réalité.
1732, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Une dizaine de
personnes. Vous avez un certain nombre de personnes qui décèdent suite au décès d'une seule personne.
Une quinzaine de décès inexpliqués.
Voilà. Inexpliqués, c'est déjà une interprétation. En fait, il doit vraisemblablement s'agir d'une épidémie, si vous voulez, hein, qui s'est répandue. Mais on l'interprète à l'aide de grilles, déjà, et de présupposés. Donc, le premier qui est mort a attiré cette quinzaine de personnes dans la tombe. Donc, bah, c'est un vampire. Et là, si vous voulez, il y a un fait capital qui joue. C'est la langue dans laquelle on exprime les faits.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on utilise les mots qui signifient en fait « revenant » localement et qui ont été traduits par « vampire », par « suceur de sang », par « déformation ». Le problème majeur de tous les témoignages sur les vampires, c'est que les trois quarts des vampires n'en sont pas. Ce sont de simples revenants. Mais une fois que ça a été traduit dans diverses langues, et notamment en français, on a mis « vampire ». Pourquoi ? Ça sonne bien, ça attire les foules.
Oui, mais alors il faut que vous arrêtiez un instant sur l'étymologie du mot, parce qu'en fait, elle est extrêmement discutée.
Il n'y en a pas d'étymologie.
On a essayé d'en trouver.
Oui, on a même été jusqu'à prendre le turc.
Ben oui, vous nous dites vampire en polonais, opir dans les Carpates, strigoi, muroni, voilà. Ou nosferat en roumain, vricolakas en grec, etc.
Oui.
Oui, alors.
Donc vous avez à chaque fois. En fait. Vampire, c'est une création, une déformation à partir de « opir » ou « pire » et « pire ». Donc, on a lié ça au turc « père ». Bon, peut-être. Quand vous avez « strigoi », etc., c'est toujours la déformation d'une racine latine qui signifie, en fait, « sorcier, sorcière ». Donc là, il y a aussi toute une autre famille. Et à chaque fois, quand vous creusez un peu la matière, disons, linguistique, vous apercevez que vous avez des types de revenants différents. Hein, pour le broucolakas grec, c'est encore autre chose. Il est lié à la boue. Et puis, si vous prenez le voutkodlak et autres personnages semblables, vous avez dedans une racine qui signifie loup. Donc, vous avez un rapport au loup-garou par-dessus le marché. Ailleurs, vous avez un rapport direct au cauchemar. Et c'est un problème philologique extraordinaire. Je veux dire, on peut, depuis fort longtemps, du reste, tout le monde disserte là-dessus, même surtout ceux qui ne sont pas philologues, disons, et chacun y va de son interprétation. Moi, je n'ai pas tenté d'interpréter, j'ai simplement dit, voilà la signification des mots telle qu'elle est.
Alors, revenons un dernier instant à notre Serbie. En 1732, on envoie un fonctionnaire pour faire une enquête et on ouvre naturellement les tombes, les corps sont autopsiés et on s'aperçoit qu'ils ont évolué de façon très différente, n'est-ce pas ?
Mais oui. Et le problème, si vous voulez, avec les chirurgiens et barbiers de l'époque, c'est qu'eux aussi travaillent avec des présupposés. Donc déjà, il y a la rumeur générale. Dans laquelle ils arrivent et ils entendent ces bruits. On vient parce qu'il y a des morts suspects, des vampires. Car la Serbie est la patrie des vampires, ça il faut bien le dire, c'est pas la Roumanie, c'est pas la Transylvanie.
Restant dans notre Serbie du moment, voilà que le fonctionnaire décide, puisque les corps se décomposent à des rythmes très variables en fait, décide qu'il faut intervenir, on tranche leur tête, petite posthume, on disperse les cendres dans la rivière, et 20 ans plus tard, l'impératrice Marie-Thérèse promulgue une interdiction d'exécuter les défunts.
Bien sûr. Mais depuis le Moyen-Âge au moins, on a toujours fait des procès aux morts, on les a exécutés, pendus, tronçonnés, découpés, empalés, brûlés. Je veux dire, la décollation là, que vous venez d'évoquer de certains cadavres de Medvedia, c'est une méthode douce, je dirais. Parce qu'en fait, nous avons là, dans ce rapport des chirurgiens et barbiers, dans ce rapport d'autopsie que j'ai traduit dans le livre, eh bien, nous avons une procédure juridique qui est fixé et qui doit être suivi à la lettre, avec des témoins et pas n'importe qui. Parce que si on déterre des cadavres qui ne sont pas suspects, à ce moment-là, c'est un sacrilège. Et justement, si Marie-Thérèse a pris ce rescrit quelques années plus tard, c'est pour éviter qu'on commette des sacrilèges par ignorance, tout simplement. Donc, il faut détecter, en fait, les tombes des vampires putatifs. Vous voyez, c'est ça le problème. Là, à Medvedia, ils ont tout ouvert, hein, carrément. Et ils ont trouvé, les uns étaient décomposés, pas les autres. Mais ça, c'est un phénomène parfaitement normal. Regardez les interviews des croque-morts du XVIIe, du XVIIIe siècle.
Oui, hein, je les regarderai volontiers, oui.
Voilà. Bon, il y en a dans le livre.
Bien, là, il faut que nous avancions et que nous arrivions à ce personnage qui, d'une certaine façon, a concentré sur lui-même toutes les... L'histoire des vampires, la croyance dans les vampires, c'est Dracula. Ouais. C'est Dracula qui est mis en place du côté des lettres par un personnage, un auteur très remarquable. On est à la fin du 19e siècle, qui s'appelle Bram Stoker. Et ce Dracula, tel qu'il l'a raconté, je vais vous le faire surgir. C'est assez kitsch, je vous préviens. Dans une interprétation pour la radio, pour le théâtre de l'étrange, 16 mai 1965... C'est un extrait d'une mise en onde du cher Jean Chouquet.
La portière est-elle bien fermée, monsieur ? Je grelotte de froid.
Oui, madame. Voulez-vous mon manteau?
Oh, merci. Vous n'êtes pas du pays?
Non, je suis anglais. Mon nom est Jonathan Hart. Je viens de terminer mes études de droit.
Qu'est-ce qu'un anglais peut bien faire dans ce pays de malheur?
Ne l'écoutez pas, monsieur. C'est une très belle contrée. Il y a des fleurs multicolores en été. C'est seulement pour la Saint-Georges que tout change.
La Saint-Georges?
Il ne connaît pas la Saint-Georges! Oh, il ne connaît pas la Saint-Georges! Dans quelques heures, tous les esprits malfaisants vont s'éveiller. Le grand sabbat des loups-garous, des feux follets. Les portières de cette diligence sont ornées de fleurs d'ail. Pourquoi? Cette jeune servante porte sur toutes les coutures de son corselet des croix et des talismans.
Pourquoi?
Mais pour faire fuir les vampires, monsieur Jonathan.
C'est une légende, il n'y a jamais eu de vampires.
Il n'y a pas de vampires! Mais à chaque Saint-Georges, on retrouve 4 à 5 jeunes filles mortes dans leur chambre, le corps vidé de leur sang. Les enfants disparaissent et les tombes se soulèvent.
Ma sœur est morte comme ça, monsieur Arthur.
Toutes ces sornettes ne me feront pas interrompre mon voyage. Je suis attendu par le client de mon patron, maître Hawkins, notaire à Londres.
Il n'y a pas une affaire qui mérite de braver la mort. Retournez dans votre pays.
Mais mon hôte, le comte de Dracula, serait furieux.
Dracula, avez-vous dit? Vous avez rendez-vous avec le diable, jeune homme. Ne rentrez jamais dans son château.
Il m'attend. J'ai rendez-vous avec son cocher au carrefour des Trois Chemins. J'y irai.
Mais vous êtes têtu comme un Prussien. Je ne peux faire qu'une chose pour vous. Donnez-moi l'adresse de votre patron. Et si dans 15 jours, je n'ai pas de vos nouvelles, je lui écrirai à Londres.
Ce n'est pas utile.
J'insiste.
Voici ma carte.
Et mettez cette petite croix autour de votre cou.
Moi?
Je vous en prie.
Quelle horreur, quelle horreur, Claude Lecouteux. Vous avez là tout le bric-à-brac du vampire menaçant.
Oui, mais moi je note une chose, c'est que les mesures défensives ici recommandées, en fait, ne servent à rien. La croix, l'ail, tout ça, ce sont des inventions relativement tardives. Mais devant un vrai vampire, ça ne sert strictement à rien.
C'est désespérant, je croyais que l'ail était très utile.
Oui, l'ail est utile contre les démons, comme tous les parfums un peu forts. Moi, j'ai des vampires qui croquent les gousses d'ail à titre de démonstration.
Juste pour montrer que ça
leur est... Juste pour montrer à la personne qui lui présente de l'ail que ça sert strictement à rien.
Il faut prévenir nos auditeurs.
Quel désespoir.
Alors nous allons en venir à ces personnages, ces écrivains fondateurs qui sont anglais, qui ont vraiment été les fondateurs du mythe moderne. Il y a Polidori, Sheridan Le Fanu et Bram Stoker. Polidori d'abord, brièvement, c'est un ami de Byron?
Oui. Ils se sont retrouvés ensemble et ils s'étaient mis d'accord pour écrire une nouvelle sur le sujet, justement, des vampires.
Que Byron n'a jamais terminé, je crois.
Non. Mais Polidori, lui, est allé jusqu'au bout et nous a donné cette nouvelle, le conte du vampire.
The Vampire Tale, oui, un
voilà,
conte.
Exactement. Et finalement, qui se termine sans se terminer. Puisque Lord Rosven disparaît, mais il n'est pas tué. Il n'est pas éliminé. Donc, il va pouvoir continuer à agir. Et ce qui est bien, si vous voulez, dans les débuts de ces romans gothiques, en quelque sorte...
L'ambiance Walter Scott.
Non seulement cette ambiance, mais c'est aussi le fait que la porte reste toujours ouverte à une suite.
À suivre.
Voilà, ce sont des récits ouverts.
Ça, c'est le vieux principe du feuilleton.
Tout à fait.
Il ouvrit la porte et le spectacle qu'il vit, le glaça d'horreur, à suivre.
Tout à fait. Mais regardez, c'est Paul Féval, c'est Léon Gosselin avec La Ville Vampire.
On va trouver Bon Sang du Terrail.
Oui, c'est tous les feuilletonistes, en fait.
Mais Polidori, ça, on est au début du 19e siècle. Il est traduit dès 1819 en France par Charles Nodier. On imagine Charles Nodier dans le calme de la bibliothèque de l'Arsenal qui dirigeait en train de traduire en frissonnant l'histoire du vampire.
Ah, mais ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça a tout de suite plu et ça a accroché.
On l'a même représenté en mélodrame au théâtre de la Porte Saint-Martin en 1820.
Oui, mais il y a eu une époque où tous les théâtres parisiens proposaient leur spectacle de vampire.
La presse écrit « Il n'y a aucun théâtre parisien qui ne possède son vampire. À la Porte Saint-Martin, il y a le vampire, au Vaudeville, le vampire et aux variétés, les trois vampires ou les rayons de la lune. Les suceurs de sang envahissent les théâtres parisiens. »
Tout à fait.
Alors ensuite, il y a Sheridan Le Fanu qui présente pour la première fois un vampire femelle attiré par les femmes. Ça devient
oui, Carmilla.
1872.
Oui. Alors là, c'est très intéressant parce que Sheridan Le Fanu s'appuie sur des éléments anciens. Le décor, c'est vraiment le décor gothique style Château d'Otrante de Walpole. Et en même temps, Il nous donne ce vampire féminin, ce qui était déjà quasiment rarissime avant, puisque on avait comme vampire que des sorcières.
Ça devient un animal noir de suie qui ressemblait à un chat monstrueux.
Oui, alors ça, c'est le côté protéiforme du vampire qui a pris. Mais en même temps, on s'aperçoit que cette femme n'est jamais très éloignée de sa tombe, qu'elle aime les femmes. Alors là, c'est le scandale. Je veux dire, pour l'époque, on transgresse toutes les règles de la bienséance en affirmant des choses comme ça.
L'érotisme se complique.
Oh, terriblement. Donc, avec Carmilla, on a une véritable création qui va dériver vers l'avant plus tard. Je pense que ça a joué un grand rôle dans la formation du concept des vamps.
Mais on voit déjà le pieu qu'on enfonce dans le cœur du personnage pour la seule façon de s'en débarrasser.
Le pieu, si vous voulez, les premiers témoignages que j'ai sur le pieu avec lequel on fixe les morts dans la tombe, c'est du 8e siècle.
Bien antérieur aux vampires.
Bien antérieur. Et on a sans arrêt, on a fixé les morts dans la tombe avec des pieux ou avec des clous. Ou alors, à une époque plus récente, avec des pierres, avec des herses. Hein? Et si vous vous promenez dans les cimetières, regardez, vous verrez des épineux qui ont été plantés sur les tombes et vous verrez des barrières de fer. Hein? Les tombes anciennes étaient entourées d'une barrière en fer. Pourquoi? Parce que le fer met obstacle à la sortie des morts ou des revenants.
Ah, maintenant, il faut rendre hommage à l'auteur majeur, celui qui écrit Dracula, Bram Stoker. On est à la fin du 19e siècle.
C'est un génie.
Un génie?
Ah, vraiment, c'est un génie.
Ah, vous n'épargnez pas vos compliments?
Non. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu le Dracula de Bram Stoker, mais c'est vraiment un génie.
Parce que j'observe qu'il n'était pas dans le Grand Larousse, par exemple. J'ai regardé ce matin.
Mais non, parce que, si vous voulez, on fera toujours le départ entre ce que l'on appelle la grande littérature et la littérature de kiosque, de gare, de vulgarisation, etc. Alors, de ce fait, vous avez des centaines d'auteurs qui ne rentreront jamais au panthéon des histoires de la littérature, alors qu'en fait, ils n'ont jamais cessé d'être lus et réédités, et que les tirages enfoncent ceux de très grands auteurs du 19e siècle, hein. On les lit, par exemple, qui va lire aujourd'hui encore Alfred de Musset ou Vigny? Alors que Bram Stoker, il est sans arrêt réédité.
Alors comment surgit Dracula de Bram Stoker, fondateur du mythe moderne, vraiment?
Il s'est inspiré de conversations qu'il a eues avec un universitaire hongrois, à partir duquel il a fabriqué son Van Helsing.
Toujours l'Europe centrale.
Voilà, toujours l'Europe centrale. Et puis ensuite, il a bénéficié de toutes les informations dont on disposait, non seulement sur les revenants, mais sur les vampires. Et en plus, c'est un Irlandais, si je ne me trompe pas. Et dans son pays, les morts ont une vie après leur disparition, etc. Donc en fait, il était, je dirais, quasiment prédisposé à écrire ce roman. Et il a puisé, donc, dans un fond commun de mentalité et de croyance, un fond commun à toute l'Europe, tous les éléments, et son génie, et c'est là que réside son génie, a été de monter ensemble des éléments disparates qu'on n'avait jamais pensé à relier. Et il a donné une cohérence extraordinaire à son personnage Dracula. Pour le personnage lui-même, bon, tout le monde sait qu'il a pris Vlad Dracul, l'empaleur, qui est un personnage historique.
Faites comme si nous ne le savions pas.
Bon, c'est un personnage historique qui vécut au XVe siècle et qui fut pendant de très longues années le seul rempart de l'Occident contre les invasions turques. Ayant été otage en Turquie, il a appliqué les méthodes turques d'intimidation. Autrement dit, quand il avait des prisonniers, il les faisait en palais. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu que ça se faisait chez les Turcs. Donc, il les a combattus avec leurs propres moyens, si vous voulez. Alors évidemment, scandale. Ça a été le scandale. Et moi, j'ai des gravures du XVe siècle où on le voit en train de dîner parmi les empalés. Alors vous avez une forêt de pieux avec des gens qui s'enfoncent doucement, puis lui, il est là avec ses assiettes, son verre. En fait, Dracul, c'est un surnom et ça signifie simplement le diable. Donc c'était Vlad le diable.
Mais simplement, enfin,
Et Tepesh l'empaleur. Ça a été le surnom sympathique.
Donc Dracula, ça vient de cela.
Oui, donc le personnage, si vous voulez, qui a fourni la base du nom, c'est un personnage historique. Et si vous allez aujourd'hui en Transylvanie, vous avez des circuits Dracula. Hein, vous pouvez aller dans une agence de voyage et booker un circuit Dracula.
Tout finit toujours soit en Sorbonne, soit en tourisme, c'est ça que vous nous dites?
Quasiment.
Puisque vous êtes professeur à la Sorbonne. Alors en face, il y a un autre universitaire, évidemment, je vois bien pourquoi vous aimez lui rendre hommage, c'est le docteur Abraham Van Helsing que vous venez de nommer, et que vous dites aussi que c'est une sorte de James Bond de la vampirologie.
Oui, le mot n'est pas de moi, hein, mais il est extraordinaire ce Van Helsing, et il sait tout finalement. Il est capable de résoudre tous les problèmes. Alors, je dirais que c'est plutôt une caricature d'universitaire parce qu'il possède la science des vampires. Or, parmi les universitaires, même moi, je n'irais pas jusqu'à affirmer que je possède la science des vampires.
Il y a aussi ce côté de l'érotisme du vampire qu'on voit dès ce moment-là. Et de ce point de vue-là, il faut évidemment citer Baudelaire. Et il y a deux poèmes de Baudelaire, des poèmes interdits naturellement sous la... l'aiguillon de l'affreux procureur Pinard sous le Second Empire. Donc deux poèmes qui s'appellent l'un le vampire et l'autre les métamorphoses du vampire. Je vous donne un extrait du second. Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle et que languissamment je me tournais vers elle pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre au flanc gluant, toute pleine de pus. Je fermais les deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, tremblaient confusément des débris de squelettes qui d'eux-mêmes rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une tringle de fer que balance le vent pendant les nuits d'hiver. Baudelaire.
Très belle évocation. Très très belle évocation qui rejoint certaines illustrations du 19e siècle, hein, où justement ce qui se révèle, c'est une charogne finalement. Hein, et Baudelaire, il en reste à la charogne.
En somme, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, on passe du vampire à la vampe.
Oui, on passe du vampire à la vampe, mais avec une acception différente tout de même. Hein. Il n'est plus question de sucer le sang, il est beaucoup plus question de séduire en utilisant tous les moyens à sa disposition. C'est ça, c'est l'apogée, si vous voulez, de la séduction. Et si on appelle ça des vampes, c'est parce que c'est irrésistible. Irrésistible. De même que l'appel du vampire reste irrésistible.
Alors je voudrais maintenant que, la dernière partie de cette émission, Claude Lecoutou, nous évoquions la manière dont on a vu les vampires du côté de ceux qui faisaient profession de rationalisme, qui faisaient profession de distance. Je pense naturellement aux sociologues, aux anthropologues, aux médecins. Un des premiers à avoir voulu jeter sur eux un regard distancié, c'est Voltaire, dans son dictionnaire philosophique.
Oui, alors on peut commencer avec Voltaire, qui lui se gausse allègrement de tous ceux qui croient aux vampires, et qui critique notamment le bénédictin Don Calmet, qui a répandu véritablement en France la connaissance des vampires.
Hein. Superstition, dit Voltaire.
Oui, superstition. Bon, il resterait à savoir ce qu'il veut exactement donner à entendre par superstition. Mais Voltaire lui-même, si vous regardez d'un peu plus près ce qu'il raconte, il fait des erreurs énormes, ce qui prouve que sa documentation est plus que légère. Et deuxièmement, pourquoi faire un article dans la grande encyclopédie si c'est une chimère? Donc ici, il y a une contradiction qui n'est pas résolue. Donc Calmet, un autre savant, va répandre le vampirisme. Et ensuite, c'est le dictionnaire infernal de Colin de Plancy qui lui reprend et synthétise en quelque sorte tout ce qu'a écrit Calmet sur le sujet et va le donner à un très très large public. Beaucoup plus qu'à un lecteur de l'encyclopédie. Hein.
Là, on est sous le Second Empire, presque oui. Un siècle après.
Oui. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde va savoir ce qu'est un vampire. Hein. Soit par la lecture, mais plus certainement, beaucoup plus par le bouche-à-oreille. Si vous voulez, un fait divers, parce qu'on a des faits divers, hein, au XIXe siècle notamment, des cas de nécrophagie qu'on attribue obligatoirement à un vampire.
Nécrophagie, c'est manger les morts, c'est
oui,
ce que je rappelle.
Oui, c'est ça. Hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Un sergent au cimetière Montmartre qui pratiquait la nécrophagie. Bon.
C'est fréquent, ce genre de choses?
Ah ça, je ne saurais vous dire. Ce n'est pas dans mes fréquentations habituelles.
Quoi qu'il en soit, on a vu à partir de la fin du XVIIIe siècle, en effet, cette distanciation d'un certain nombre de gens, en particulier des médecins, tous ceux qui, comme l'a dit Kaiwa, sont gênés parce que les vampires fascinent les vivants en étant un accro, je cite Roger Caillois, un accro dans la trame des certitudes scientifiques si solidement tissées qu'elles semblaient ne jamais devoir souffrir l'assaut de l'impossible. Les vampires, c'est l'impossible.
Oui, c'est la contradiction totale, c'est la négation des règles normales. Et donc la médecine s'est emparée d'eux. Lorsque vous voulez faire parler un peu de vous, vous émettez des nouvelles théories médicales sur le vampire. Alors, on a évoqué, les psychiatres ont parlé de schizophrénie. Vous êtes deux personnages en un, mais vous êtes tout de même vivant, mais vous allez vous prendre pour un vampire. Bon, ça, c'est peut-être un cas clinique. Vous avez les médecins.
Alors, les médecins, il faut s'y attarder, parce qu'ils se sont beaucoup intéressés aux vampires, qu'ils y crussent ou non.
Qu'ils y crussent ou non, oui. Eh bien, ils ont commencé par dire que c'était la rage, une forme de la rage. Pourquoi ? Parce que les dents, la bave, etc., le comportement général. Donc vous avez plusieurs articles très, très documentés en apparence qui vous disent c'est la rage. Et la seule théorie qui jusqu'à maintenant continue à tenir la route, c'est la théorie de la porphyrie.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est une maladie qui se caractérise par une dépigmentation de la peau et les personnages souffrent de la lumière et préfèrent vivre dans l'obscurité. Alors, de fil en aiguille, eh bien, on a brodé. Ils ne peuvent pas vivre à la lumière, ils vivent dans l'obscurité et ils couchent dans des cercueils, n'est-ce pas ?
C'est encore plus obscur. C'est cette fameuse maladie du sang héréditaire qui serait fréquente en Transylvanie ?
Oui. Qui serait fréquente en Transylvanie.
Avec un retroussement des lèvres, avec des malformations dentaires, etc., etc.
Voilà. Donc, on a cherché, encore une fois, avec des présupposés interprétatifs, on a cherché l'explication. On a dit, il a les dents comme ceci, c'est un vampire. Et à chaque fois, c'est dès que vous sortez de la normalité physique ou autre, vous êtes suspect et vous êtes vampire. En Transylvanie. Certains revenants, on vous dit, on les reconnaît à la naissance parce qu'ils ont une queue à la base de la colonne vertébrale. Ailleurs, on va vous dire, il a une mâchoire de fer. Et c'est à ça qu'on va le reconnaître. Ailleurs, on va dire, le futur vampire, c'est celui qui va naître la nuit de Noël, par exemple. Hein? Et tout à l'heure, a été évoqué la nuit de la Saint-Georges, dans un des très beaux textes lus. Eh bien, c'est une nuit parmi d'autres. Hein, chaque pays a sa propre nuit où là, tout le monde a quartier libre. Enfin, tous les êtres de l'au-delà ont quartier libre. Mais les Grecs avaient déjà les Entestéries, les Romains avaient les Lémuriens, où la même chose, les morts sortaient et allaient se promener et vaquaient à leurs occupations avant de regagner la tombe.
Puisque vous nous avez ramené en Roumanie un extrait du film Dracula, dont j'évoquais tout à l'heure l'efficacité de Francis Ford Coppola, 1992, et c'est Anthony Hopkins dans le rôle du docteur Van Helsing. Enfin, évidemment, nous n'entendrons pas Hopkins, puisque malheureusement, il est doublé en français.
Mais Jack, cette pauvre créature vient déjà de recevoir le sang de deux hommes.
Par tous les saints, son corps ne peut contenir autant de sang à lui seul.
Comment l'a-t-elle perdue ?
Excellente question, Monsieur Morris.
Ces marques sur sa gorge. Aucune maladie, aucune meurtrissure. Je suis sûr que c'est par là qu'elle a perdu son sang.
Ah, et où est passé le sang ? Vous étiez un étudiant brillant, Jack. Soyez perspicace. Où est passé le sang ? Dites-le-moi.
Son matelas devrait en être couvert.
Exactement. Vous ne laissez ni vos yeux voir, ni vos oreilles entendre ce que vous-même ne pouvez comprendre.
Et une chose s'est introduite près d'elle, lui a sucé le sang, et s'est envolée, je suppose.
Oui, peut-être.
C'est remarquable. C'est absolument remarquable. L'un de vous deux, docteur médecin ou quoi que vous soyez, daignerait-il me dire de quoi souffre ma Lucie ?
Jack, vous êtes un scientifique. Cet univers n'est-il pas rempli de choses échappant à toute tentative d'explication, le mesmérisme, l'hypnose,
vous et Sarko avez démontré l'hypnose,
la matérialisation, le corps astral.
Professeur ? Bon Dieu, où peut-il être ?
Vous voyez ?
Je me sens
aussi empoté qu'un novice.
Messieurs, nous ne combattons pas ici une maladie. Ces marques sur la gorge de Lucie ont été faites par une chose indicible et étrangère. Morte, mais non morte. Elle nous traque dans un but effrayant qui m'échappe encore. Pour vivre, elle se nourrit du sang de Lucie. C'est une bête, un monstre.
Vous trouvez, Claude Lecouteux, que le personnage de l'universitaire est fidèle à l'idée que vous faites de votre métier et du bien ?
Disons que la caricature me semble parfaitement réussie. En fait, l'auteur a simplement accentué quelques traits. C'est le mandarin qui fait son cours à son jeune assistant. Mais enfin quoi, vous avez des yeux, mais ils sont dans votre poche. Alors qu'attendez-vous pour voir la réalité des choses ? Ce sang, hein, il est bien passé quelque part. Hein ? Alors regardez.
Il y a le personnage de Lucie.
Le personnage de Lucie, c'est un personnage qui est, disons, attachant et vraiment très triste. C'est une victime. C'est véritablement la grande victime. Elle dépérit et quoi qu'on fasse, elle va vers la mort. Donc son fiancé et en même temps le docteur Van Helsing n'arrivent pas à stopper en quelque sorte cette hémorragie nocturne puisque le vampire revient sans cesse pour aspirer son sang. Et elle va mourir et être enterrée et devenir vampire à son tour. Et il va falloir une séance aussi qui est très très belle de rédemption du vampire pour la sortir de cet état. Déjà, la nuit où elle va quitter son tombeau pour aller sucer du sang, puisqu'elle a besoin de ce sang pour se nourrir, eh bien Van Helsing va déposer des fragments d'hostie tout autour des interstices par lesquels elle pourrait se glisser dans la tombe. Et ensuite, on va procéder à la mise à mort de Lucie Vestenra. Et c'est là où c'est le plus, disons, le plus choquant, à la limite, puisqu'il faut la transpercer d'un pieu.
On remet la morte à la mort.
Exactement. Disons, c'est un univers dans lequel on tue les morts. Et ça, c'est un univers que j'ai rencontré depuis l'Antiquité classique. On tue les morts, parce que les morts sont vivants et qu'ils peuvent très bien vous tuer. Donc, on va la transpercer d'un pieu, et vous avez la métamorphose qui joue, et qui, en fait, est la description de sa rédemption, de l'envol de son âme, finalement, vers un paradis, peut-être. Ses traits se détendent, et elle redevient celle qu'elle était, avant d'avoir été mordue par un vampire. C'est une espèce de transfiguration, et la scène est très très belle. C'est une des plus belles du livre.
Il me semble que cela nous conduit vers une dernière catégorie d'interprétation, c'est celle des théologiens. Les relations entre les vampires et l'Église, notamment l'Église catholique, méritent qu'on s'y attarde un instant pour finir.
Oui, alors pas seulement l'Église catholique, hein, l'Église orthodoxe aussi.
Protestante peut-être.
Je ne sais pas pour les protestants, mais les orthodoxes, parce qu'ils ont eu beaucoup de vampires, hein, notamment en Grèce.
Et en Roumanie.
Oui, en Roumanie, en Europe centrale. Le vampire est un excommunié. C'est ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est un excommunié. Alors parfois on le sait parce que c'est dit textuellement, parfois c'est simplement suggéré. Et la suggestion vient entre autres choses du fait que son corps ne se décompose pas. La terre qui refuse un corps, c'est exactement comme le paradis qui refuse un pécheur. Donc à partir du moment où vous trouvez un corps non décomposé un certain laps de temps après le décès, eh bien, vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui a un péché tellement grave qu'il a été excommunié, de facto ou de jure.
On ne croit pas, l'Église ne croit pas aux vampires en tant que tel, mais elle croit au diable. Et par conséquent, il y a, je dirais, une zone de recouvrement, non ?
Vous avez une zone de recouvrement, puisque l'Église a avancé comme explication du vampirisme et des revenants, la possession du corps par le diable. Or, le corps ne peut être possédé que si c'est celui d'un pécheur ou d'une pécheresse. Donc, le corps se glisse dans ce réceptacle, c'est ce que disent déjà les textes au XIIIe siècle, et l'anime. D'où, si vous voulez, l'effet supposé de la croix. Présenter une croix à un démon ou jeter de l'eau bénite sur lui, aïe aïe aïe, ça brûle. C'est toujours ce qui est dit. Hein. Et on le met en fuite. Et ça, on le retrouve chez le vampire. Présenter-lui la croix, théoriquement, il recule, terrifié.
On retrouve, en fait, une grande interrogation sur les relations entre l'âme et le corps. Et peut-être même, si on est ternaire et pas binaire, On retrouve l'idée au Moyen-Âge de la différence entre animus, spiritus et anima.
Oui, le problème majeur, et si vous voulez l'explication véritable, se situe là. Dans les temps anciens, nous étions réputés posséder plusieurs âmes. J'utilise âme au sens général et non pas au sens chrétien du terme.
Déjà dans la Bible.
Ça peut être, oui, exactement. Hein, ça peut être justement spiritus, animus, anima.
C'est-à-dire animus, le principe vital, spiritus, l'esprit, et anima, la partie immortelle de l'homme, celle qui le relie à Dieu.
Mais vous prenez la religion égyptienne, vous avez aussi des âmes multiples, hein, le ba, le ka, etc., l'ombre. Vous prenez chez les Grecs partout, disons dans les civilisations anciennes et jusqu'au Moyen-Âge, on a la notion d'âme multiple. Or, une de ces âmes, elle est dans le sang. Autrement dit, votre vampire, en buvant du sang, s'approprie l'âme d'autrui. Ce qui explique aussi cette dérive vers la séduction. Donc, vous en tant que vampire, vous nourrissez uniquement non pas de la vie, mais de l'âme profonde des autres. Alors, si vous le mangez, vous aboutissez à la même chose, puisque dans un des textes qui était cité, on avait sucé la moelle des os. Pourquoi ? Il y a une âme dans les os. Vous en avez une dans la chair, vous en avez une dans le cœur, vous avez une âme dans les reins, vous avez une âme dans le foie, etc. L'âme est partout dans le corps, mais sous des formes multiples. Et avec le christianisme, ça a été réduit à trois entités, hein, spiritus, animus, anima.
Et c'est là qu'on rejoint la fascination de l'Église pour l'idée de vampire, le refus et en même temps quelque chose comme une proximité, c'est ça ?
Surtout le refus, parce que le vampire, donc, ou le revenant, transgresse absolument toutes les lois théologiques. Si vous êtes bon, vous irez au paradis. Si vous êtes moyen, vous irez au purgatoire. Si vous êtes mauvais, vous irez en enfer. Et ces gens-là, ils sont nulle part. On ne les a dans aucun des trois lieux. Donc ça ne va pas. Il faut leur trouver absolument une place.
Vous évoquez le monde des sorcières. De certaines façons, on peut retrouver dans la lutte contre les vampires
le même rituel de mise à mort, si vous voulez. Mais c'est normal, puisque un de mes collègues hongrois a montré que l'émergence du vampire est exactement concomitante avec la disparition des derniers procès de sorcellerie. Et c'est-à-dire qu'en fait, le vampire a remplacé la sorcière. Et lorsqu'on compare les techniques d'enquête et de mise à mort, si vous voulez, des sorcières et des vampires, on aboutit à des parallèles absolument étonnants, qui prouvent que mon collègue, hein, là, il a découvert un point extrêmement important.
On retrouve cette idée des relations ambiguës des prêtres envers les vampires dans le film qui vient d'être réalisé
du coréen, de
Park Chan-wook, Thirst, la soif. C'est un prêtre vampire, en fait, qui devient vampire, qui est déchiré entre sa fonction d'homme d'église et sa nouvelle nature de vampire. C'est là qu'on trouve la formule, un vampire est un type qui a une alimentation différente.
Oui, mais je ne l'ai pas vu parce que, bon, c'est un peu trop moderne, disons, pour moi. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas un prêtre vampire ?
Ça me donne le goût de vous demander, pour finir, si vous sentez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose comme une vulgarisation, un affaissement de la notion de vampire, à quoi vous êtes si attaché ? Buffy et les vampires, ça devient un sujet de feuilleton, etc. Vous considérez que le vampire garde toute sa vitalité ou que les hommes sont en train de, je dirais pas de déchiqueter, mais en tout cas de le priver de sa force.
Disons que maintenant, on se tourne de plus en plus vers quelque chose qui ressemble au grand guignol du 19e siècle. Parce que Buffy et les vampires, bon, j'en ai vu quelques épisodes.
Tout de même.
En vacances. Oui, documentation oblige, si vous voulez. Honnêtement, le scénario est d'une minceur affligeante. Hein. Bon, pour moi, c'est une récréation. Je veux dire, que ce soit des vampires, mais ça pourrait être n'importe quoi, des aliens, hein, tout ce que vous voulez. Je veux dire, le côté vampirique, pour moi, est nul et non avenu là-dedans. Maintenant, si vous prenez Van Helsing, le film, hein, ils ont sorti Van Helsing, que j'ai vu, parce que c'est toujours pareil, faut tout de même se tenir au courant. Ben là, j'ai trouvé que, sous des dehors grossiers, il y avait des choses extrêmement intéressantes, notamment ce rapprochement permanent entre vampire et loup-garou. Et qui rejoint les études étymologiques. Donc là, c'est le seul film où j'avais ce rapprochement. Maintenant, tout le reste, c'est tout de même assez grossier. Hein. Des arbalètes spéciales pour tuer les... on fait n'importe quoi avec les vampires aujourd'hui.
Donc
alors
c'est,
qu'un
c'est,
bon
c'est...
film de vampires, c'est un film qui vous laisse sur une interrogation.
Je vous sens très, très malheureux de ce que deviennent les vampires aujourd'hui sous l'aiguillon du manque de considération de nos contemporains.
Voilà, on devrait faire une amicale. Une amicale pour la défense des vampires.
Eh bien, je crains que la chanson que je vais vous faire entendre pour finir de Marie-Paul Bell, qui remonte à 1973 et qui s'appelle Nosferatu, vous ne l'inscriviez dans la liste de ses créations que vous blâmez au fond pour quelque chose comme une légèreté.
Seul au fond de mon manoir, perché sur un piton noir, j'attends ta venue. Et pour cela je suis nue, ma peau vibre sous le drap. Viendra, viendra pas Nosferatu. Quand viendras-tu voir mon sang et ma vertu? Nosferatu. Comme je dors à poing fermé, je ne peux pas deviner à quelle heure tu viens. Mais quand au petit matin, dans ma glace, je me vois pâle, c'est le principal. Nosferatu, c'est que t'es venu boire mon sang et ma vertu. Nosferatu. Et puis sur une tasse de thé, écrit avec du sang frais, y a un mot d'amour. Où tu dis que tout le jour tu attends le crépuscule pour mes petits globules. Nosferatu, tu es venu boire mon sang et ma vertu. Nosferatu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tu étais papa d'un drôle de prince qui est venu me voir après toi. Et depuis pour lui j'en pince. J'aime Dracula. Nosferatu, tu es cocu et je deviendrai vois-tu bientôt ta bru.
Je vous ai vu pendant que cette chanson passait, Claude Lecouteux, marquer une sorte de chagrin blessé en pensant à vos étudiants qui risquent de savoir que vous avez participé à une émission aussi frivole.
Presque, presque.
Eh bien, nous terminerons sur cette frivolité. J'espère que vous me le pardonnerez. Je me le pardonnerai peut-être d'autant plus que je vais rendre hommage à votre livre, Histoire des vampires, Autopsie d'un mythe. C'est la deuxième édition. Après 10 ans, vous rééditez ce livre. Et puis, j'ai cité, chemin faisant, l'anthologie que vous avez établie chez José Corti, qui a été publiée en 2006 et qui s'appelle « Elle dévorait son linceul ». Nous savons maintenant ce que ça veut dire, le sous-titre. Plus sérieux, si je puis dire, et revenant, fantôme, vampire et esprit frappeur. La semaine prochaine, puisqu'il semble que la grève de la faim, du côté de José Bové et de quelques autres, redevienne à la mode, nous recevrons Johanna Siméan sur ce sujet considéré dans la longue durée. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisation Patrick Molinier, avec la collaboration de Meryl Moneghetti, avec Sophie Bobert, Lucille Cavigno, Clément Daté, Jérôme Bonnetin, et pour les archivina, Florence D'Artois.